Bonjour, bienvenue donc sur cette conférence du 11e Festival des Utopiales, consacrée cette année donc à Didier Graffé, pas le festival entier, mais juste cette conférence, je vous rassure.
Ça marche, oui. Bonjour.
On va essayer de faire ça un petit peu comme à la maison, tranquillement, poser quelques questions, essayer de découvrir le bonhomme derrière l'artiste et vice-versa. Un petit peu l'œuvre aussi quand même. Vous avez l'énorme chance d'avoir et l'artiste en chair et en os et une superbe exposition, il faut quand même le dire, sur la mezzanine. Donc je vous invite vraiment à prendre les escalators et à aller passer quelques minutes devant chaque originaux, chaque peinture, chaque dessin, parce qu'ils valent vraiment le détour. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous commencer à nous parler un petit peu de ton... On va faire quand même ça à peu près dans l'ordre chronologique de ton parcours, simplement. Et on arrivera ensuite aux quelques livres qui sont ici et aux multiples autres que nous n'avons pas en présentation, mais qui sont représentés dans ton exposition. Comment tout a commencé, en fait? Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au dessin au tout début? Est-ce que tu te souviens, par exemple, de tes premiers dessins et j'imagine, de tes premiers émois par le dessin, puisque sinon tu n'aurais peut-être pas continué.
Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé à dessiner tout petit, comme la plupart des illustrateurs aujourd'hui, hein, qui font ça par passion. Je me suis rendu compte assez vite que finalement ça aussi, ça attirait le regard des autres. Ça, c'est quand on est enfant, on voit les parents qui sont attentifs à ce que vous faites, et c'est vrai que ça fait plaisir. Déjà, il y a un rapport, un petit lien qui se crée. Étant né en 70, il n'y avait pas encore trop la télévision à l'époque, et du coup le fait de pouvoir faire un peu de création par soi-même, c'est quelque chose qui m'intéressait. Il n'y avait pas... Enfin voilà, quoi, vraiment les choses étaient très imaginées, très peu de références à la base, sauf quelques références de télé par la suite, avec Goldorak, des choses comme ça, Albator, enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment, à la base, c'est vraiment ça. Moi j'ai des souvenirs de dessins tout petits chez ma grand-mère, chez mes grands-parents. Le dimanche, je dessinais sur des petites feuilles à carreaux, au bic, voilà. Et par la suite, bon, des thèmes se mettent en place. J'aimais bien le cirque, alors je faisais des clowns, après je faisais des robots, enfin des trucs vraiment très très enfantins. Et puis petit à petit, ça m'a poursuivi, on va dire. Arrivé étudiant, j'étais pas très à l'aise parce que j'aimais le dessin et je pouvais pas dessiner à l'école, donc évidemment c'était toujours un problème. Et puis par la suite, donc j'ai fait un bac à 3 à l'époque. Littéraire plastique. Donc là, j'étais un peu plus dans mon élément. Donc j'ai passé mon bac, histoire de l'art, philo et tout ça. Ça me convenait bien. Parallèlement à ça, je faisais des stages de pub les étés. Voilà. Bon, à l'époque, c'était un peu la grande époque de la pub dans les années 80. RSCG, HDM, enfin des boîtes qui ont plus ou moins fusionné, disparu. Il y avait Bélier. Donc j'ai eu la chance de faire des stages dans ces boîtes-là. Je portais des cafés, je faisais quelques refs.
Alors, à l'époque, on va dire que tu travaillais encore en traditionnel, puisque le numérique, il est encore assez récent. Parce qu'il faut quand même souligner que Didier est quand même, je dirais, un de nos plus grands illustrateurs, et qu'il travaille en traditionnel encore, donc il a quelques expériences en numérique. Tu vas nous parler un petit peu de ça. Si je me souviens bien, l'année 2002 a été particulière pour toi, puisque tu as à peu près cumulé tous les prix du graphisme en France. Depuis, il y a eu d'énormes expositions, puisque donc l'exposition que nous avons ici aujourd'hui vient de la maison d'ailleurs, où il y a eu donc 3 étages consacrés à ton travail autour de Jules Verne, de l'île mystérieuse et donc de la Compagnie Noire. Est-ce que tu peux revenir juste quelques instants sur ton ressenti sur ces parcours? Est-ce que c'est la consécration, ou finalement, parce que on détecte quand même un désir de perfectionnement incessant, et on se dit, bah tiens, malgré tout ce parcours somptueux, je dirais, dans l'illustration française, on sent quand même que tu es prêt à tout remettre en question pour encore pousser le dessin, pour encore aller plus loin dans tes compositions, aller plus loin dans s'arracher les tripes dans ton dessin.
Je pense pas que c'est, enfin c'est pas un aboutissement, et heureusement, parce que sinon bon, j'aurais, à la limite faut que je fasse autre chose. Moi je me bats un peu plus finalement contre moi-même pour toujours rester, pour toujours avoir l'envie de dessiner, de peindre. Je dirais, mon premier spectateur c'est moi, je veux dire, c'est, ce sont pas, même pas les lecteurs, c'est ce que j'ai devant les yeux. J'ai des phases effectivement de enfin, j'ai des moments où j'ai moins envie de peindre, et du coup, je me dis, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment, il faut que je réagisse, quoi? Donc, je me bats un peu pour pas tomber dans une apathie, comme ça. Mais je veux encore me surprendre, on va dire. Mais ça peut être aussi bien par des nouveaux textes que par essayer de trouver des nouvelles techniques. Et c'est aussi important, parfois, de faire des travaux personnels à côté pour pouvoir développer ça. Ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on travaille dans l'édition, où les choses vont peut-être plus vite. Donc il faut faire des choses personnelles à côté, essayer de trouver des nouvelles techniques qui moi me font évoluer. Bon, c'est sûr que j'ai pas non plus la même façon de penser que j'avais à 20 ans sur les sujets. Je dessinais peut-être plus de dragons, je dirais, à 20 ans. Aujourd'hui, j'aime plus le côté Jules Verne, et puis j'essaye de développer ça.
Tu veux dire que si on dessine des dragons, on a toujours 20 ans, c'est ça que tu veux dire?
Non, mais je pense que, enfin, je veux dire, moi, je suis comme ça. C'est vrai que je m'intéresse plus à des choses un petit peu plus techniques maintenant. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Disons que Jules Verne, c'est un tremplin vers du steampunk et ainsi de suite, quoi. C'est vrai que je pars de textes de référence, et puis petit à petit, ça me pousse vers autre chose. Mais de toute façon, tout est lié. Il n'y a pas de séparation entre les thèmes. Voilà.
Alors, tu parles de ton travail, un petit peu, tu as évoqué le numérique, par exemple. On va parler ensuite des livres. Les images défilent un petit peu derrière nous. Bon, c'est un petit panorama de ton travail immense sur combien? Sur 21 ans, 22 ans maintenant?
J'ai commencé en 94, pour être précis, en tant qu'indépendant, on va dire.
Voilà. D'accord, donc un peu moins d'une vingtaine d'années, effectivement, oui. Pour faire moultes images. Et aujourd'hui, quand tu parles donc de quelquefois de cette absence de plaisir du dessin, ou de la contrainte de te forcer un petit peu à revenir sur le métier, est-ce que le numérique a pu être, entre guillemets, une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle approche, et susciter un nouvel intérêt pour le dessin pour toi? Ou est-ce que c'est quelque chose dont tu te gardes, dont tu te méfies, ou...
Non, je m'en suis méfié longtemps, mais non pas parce que je ne voulais pas travailler en numérique, mais pour plein de raisons techniques, en fait. Mon écran n'était pas calibré, donc j'avais pas le résultat imprimé qui me convenait. Donc j'ai résolu ce problème maintenant. Maintenant, les nouvelles techniques, les tablettes graphiques sont quand même assez performantes, et du coup, ça permet de pallier à ces problèmes. Ce que je veux, c'est que l'outil soit efficace tout de suite, que j'ai pas à me mêler, enfin, à m'embêter à essayer de résoudre des problèmes de colorimétrie, de choses comme ça. Quand on dessine en traditionnel, on prend une feuille ou une toile, ou bon, on a sa peinture, et voilà, c'est parti, quoi. Il n'y a pas besoin de se poser de questions sur le reste. En tout cas au niveau technique. Et le numérique, j'avais ce problème-là de résoudre ces problèmes de colorimétrie. C'est vrai que j'ai pas mal de couves qui sont, à mon sens, saturées en couleurs, et j'arrivais pas à résoudre le problème. Donc ça n'allait pas. Et puis bon, j'ai résolu ce problème-là. J'ai beaucoup de couves récentes qui sont en numérique, parce qu'il fallait travailler plus vite, parce que je trouvais ça intéressant. Mais il y a toujours un moment où je me dis, maintenant j'ai besoin de revenir à la peinture, parce que c'est nécessaire, quoi.
Voilà, t'as quand même un rapport à la matière particulier, parce que même, enfin, quand on regarde tes originaux, on voit bien que tu as vraiment, un intérêt à travailler la matière, à ce que l'on garde la trace de la peinture, le croquis des fois sous-jacent. Oui. Et si je me souviens bien, il t'est même arrivé de refaire en traditionnel une peinture numérique. Il me semble bien. Raconte-nous comment on peut en arriver là.
Une peinture numérique. Le regret que j'ai, c'est que finalement, il n'y a rien derrière, quoi. On peut faire une exposition de reproduction, mais moi, je vois pas l'intérêt d'aller voir une expo de reproduction. Ce que je veux, c'est voir l'original. Même le fait de penser que c'est l'image originale sur laquelle a, entre guillemets, transpiré l'auteur, avec peut-être des petites incidences aussi dans les coins. Il peut y avoir des annotations, des choses comme ça. Bon, il y a ce côté quand même beaucoup plus réel et tangible qui, moi, me paraît important. De même que je suis auteur de fantasy à la base, peut-être plus que de science-fiction, Je suis tourné beaucoup vers le passé, vers la signification des choses qui restent, qui nous restent aujourd'hui. J'aime bien les vieilles pierres, les choses comme ça. Je pense qu'il y a une analogie à peu près, enfin c'est à peu près similaire avec avec la technique. La technique de peinture qui est finalement, je dirais, le prolongement de siècles de culture picturale. Quoi.
Donc ce regard vers le passé qui t'a plus poussé vers la fantaisie et vers presque un travail historique, parce que quand on voit ton travail même de fantaisie, il est quand même très documenté. Est-ce que c'est aussi une manière de rendre entre guillemets hommage à quelques maîtres, à quelques influences qui forcément donc étaient traditionnelles, le plus récent quasiment étant Jono finalement, non?
Oui, alors bizarrement avec Jono on a des thèmes relativement similaires et je dirais une vie personnelle qui est assez similaire. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et je me suis rendu compte qu'il venait d'un milieu de paysan comme moi, qu'il est très proche de la terre, enfin des choses vraiment
la même barbe aussi.
Voilà, et finalement on a à peu près, je pense, une même structure mentale sur les choses. Bon voilà, il se trouve que c'est comme ça, c'est pas de peau pour moi. Par la suite, c'est vrai que j'étais adolescent très proche du travail de Druyer, qu'on a perdu de vue dans les années 90, et puis il est revenu avec son travail sur les rois maudits. Et c'est vrai que Druyer, j'ai des bouquins à la maison régulièrement, je me plonge dedans, parce que je pense que j'ai gardé quelque chose de l'adolescence et de cette façon de structurer les images qui est encore présente aujourd'hui. Lone Sloan, Les Six Voyages de Lone Sloan, je l'avais lu à 13 ans, et ça m'avait marqué, parce qu'il y a des détails partout. Enfin, voilà. Il y avait une espèce aussi des structures très symétriques, un peu à la Kubrick, des choses très... très centrale, ou alors des visages impressionnants, proches de statues, des trucs, voilà.
Alors, tu parles de Druyer, donc ça, j'ai l'impression que tu es attiré quand même par des artistes qui ont, disons, plusieurs cordes un peu protéiformes.
Exactement.
Comme ça,
ouais.
Qui touchent, que ce soit la sculpture, que ce soit à des travaux de volume ou de mise en scène, par exemple. Et moi, j'ai l'impression que même en étant resté sur l'illustration, que ce soit le livre, les jeux, tout ce que tu as fait, les livres-jeux chez Grund, les énormes pavés autour de Jules Verne et autres, malgré le fait de rester lié au livre, tu as pu diversifier ton travail. Parce que quand on voit quand même les images, que ce soit dans les compositions, dans le choix des sujets... dans les cadrages complètement fous, parce que vous regarderez les croquis de la Compagnie Noire, moi, il y a quand même quelques images... purement hallucinante sur les cadrages. J'ai l'impression que tu te renouvelles quand même dans le travail tout en restant sur le dessin, alors que d'autres illustrateurs, sans que ce soit dévaloriser leur travail, mais des illustrateurs peut-être, par exemple comme Manchu qui travaille aussi en traditionnel, ont une œuvre, disons, plus monotone, mais en tous les cas plus proche d'un même sujet, d'une même technique. Je sais pas, c'est pas
ouais, je veux pas me sentir piégé entre guillemets, d'être obligé de faire toujours la même chose, mais c'est peut-être purement inconscient, hein. Pour en revenir à Druyer, c'est vrai que j'avais été fasciné par le fait qu'il fasse du mobilier. Je trouvais ça super, bon, comme le fait Giger, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une liberté d'expression qui n'est pas limitée seulement au papier et à la peinture. Et ça, j'aimerais bien un jour faire. Par exemple, j'avais réalisé le Nautilus en maquette suite au 20 milieux. Voilà, c'était une autre manière aussi de faire de la création. Bon, il faut avoir un peu plus de temps, effectivement, parce que il faut bien gagner sa vie à côté, Enfin, je trouve que c'est intéressant de pouvoir explorer d'autres pistes de création, quoi.
Et alors, lorsque tu as donc la demande d'un éditeur et que tu te dis, bah, tiens, moi, cette semaine, j'ai envie de travailler plutôt dans cette direction, d'essayer ce nouveau support ou d'essayer cette nouvelle composition ou cette nouvelle matière, est-ce que ça ne surprend pas de temps en temps l'éditeur? Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler du processus? Est-ce que, par exemple, l'éditeur te demande encore forcément de soumettre des croquis? Est-ce que tu es obligé de lui préciser quelle va être les tonalités, quelle va être la technique, les choses comme ça?
Alors, c'est vrai que
le numérique... Tu peux nous parler de ton processus comme ça, quand on t'envoie un manuscrit, comment ça se passe?
Pour être à peu près clair, quand j'ai commencé, je faisais un crayonné... Je faisais 3 crayonnés à peu près. En général, je mettais le meilleur en premier et j'envoyais ça par fax. Bon, c'était comme ça à l'époque, il n'y avait pas encore...
À l'époque des dinosaures.
Voilà, oui, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et donc par la suite, Internet est arrivé, donc on a pu envoyer des fichiers. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais un crayonné sur papier, je scanne, je le passe en niveau de gris, je mets quelques valeurs, et puis j'envoie ça par mail en disant, voilà, là... C'est juste pour donner une indication de valeur et de profondeur de l'image, pour pas qu'elle soit trop plate. Voilà. C'est un peu ce que j'ai fait avec la compagnie noire. On voit les crayonnés, puis on voit les omnibus dedans qui sont en bichromie. Le principe, c'est ça. Ça permet à l'éditeur de mieux visualiser, mais le passage du crayonné, le fait de soumettre une image à un éditeur est quand même nécessaire. Je veux dire, j'ai pas le droit de m'imposer comme ça. Vis-à-vis d'un éditeur. Bon, maintenant qu'ils me connaissent, effectivement, ils vont me soumettre parfois des idées, tout en sachant ce que je peux en faire. Donc, le rapport avec l'éditeur est plus facile. On va moins tergiverser autour d'une image.
Est-ce que tu lis du coup tous les manuscrits qu'on te soumet?
Pas forcément.
En fait, pour les illustrer. Ouais.
Pas forcément. Et ça dépend en fait des éditeurs. Des éditeurs parfois me donnent un résumé, d'autres m'envoient le texte, d'autres me l'envoient via Internet. Alors, ce que je fais en général, c'est que je m'empresse de l'imprimer. Alors je sais bien, c'est pas terrible au niveau écologique, parce que là, je dégomme 300 pages d'une ramette. Voilà,
oui, derrière chaque illustration mais graphée se cache un arbre mort, en fait.
C'est possible, oui. Mais je n'arrive pas à lire sur un écran. J'ai besoin d'avoir le papier quand même pour mettre des petites annotations, pour m'y retrouver. Voilà, parce que faire défiler, moi, ça me fait mal aux yeux. Donc voilà, bon, chacun a ses habitudes de travail. Et moi, je préfère passer un quart d'heure à sortir mes feuilles et puis petit à petit les reprendre.
Et alors, on sait que tu t'investis énormément dans chacune de tes commandes. Hein, quand on voit le travail fourni pour les grunes de Jules Verne et les choses comme ça, que ce soit de la maquette, reconstituer les plans exacts d'après les descriptions de Jules Verne et s'apercevoir d'ailleurs qu'il y avait des incohérences. Donc, on s'imagine très bien, par exemple, que pour la Compagnie Noire, c'est le même type d'investissement. Est-ce qu'il y a, par exemple, des images qui ne sont pas publiées? Est-ce que tu sais, par exemple, pour une exposition ce qui t'a été consacré entre la maison d'ailleurs et ici, à combien d'images, à combien d'illustrations sont sorties de l'imagination de Didier Graffé aujourd'hui? Est-ce que ça, tu le sais?
Je ne sais pas exactement. Enfin, je ne compte pas. Je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'ai pas compté. Je suis arrivé en fait pour cette exposition de la maison d'ailleurs avec tout ce que j'avais fait qui me paraissait intéressant. Il y avait déjà un premier choix. J'ai exclu quelques images qui étaient des images de tout début qui, bon, à mon avis, n'avaient pas grand intérêt. Et avec Patrick Giger de la maison d'ailleurs, on a choisi une série d'images et je l'ai surtout laissé choisir lui avec son regard extérieur, parce que moi j'ai un regard trop impliqué. Donc, bon, mis à part quelques images auxquelles je tenais et des images importantes, notamment celle de Guild, qu'on a vu là, que je remets finalement dans toutes les expos, parce que c'est une image qui contient les thèmes que j'affectionne toujours et qui pour moi est toujours d'actualité. Et pourtant, c'est une image qui a 15 ans. Donc, il se trouve qu'on a des images comme ça qui vont jalonner un petit peu notre métier comme ça. Pour moi, c'est une image de référence de mon travail, quoi. Et bon, évidemment, la technique a évolué, mais voilà, je trouve qu'elle est encore d'actualité.
Donc ça, c'est les dragons que tu dessines à 20 ans, par exemple.
On
voit les images. Ça, tu peux nous parler un petit peu des images, de la façon dont ça peut, dont naît la composition. Est-ce que tu traces en premier des grandes lignes en te disant, bah tiens, faut que ça parte dans cette direction-là? Est-ce que tu tiens compte de ce sens de la lecture, quoi, en fait, ou est-ce que c'est l'image figurative qui s'impose avant tout? Comment tu montes un petit peu l'illustration elle-même, en fait? Est-ce que ça naît d'un crayonné un petit peu presque hasardeux? Tu parlais Giger tout à l'heure, donc c'est pas forcément sous l'emprise de psychotropes, mais
non, en fait,
est-ce que tu pars sur une composition ou est-ce que c'est l'objet vraiment figuratif qui s'impose de lui-même?
Non, parfois on peut avoir une idée sur un mot ou... C'est un mélange de choses, en fait. À la lecture, on peut très bien à un moment se fixer sur un passage en disant ça, là, il se passe des choses intéressantes. Ou alors avoir une sensation globale du roman qui évoque quelque chose et petit à petit, je vais essayer de trouver des éléments qui vont se mettre en place par rapport à ça. Tous les champs sont ouverts. Ça peut très bien être une image figurative, comme ça peut être une image plus symbolique. On peut très bien prendre un petit élément qui paraît complètement anodin dans le roman, mais et qui en fait se révèle d'une importance capitale et sans pour autant dévoiler tout le roman. Après, voilà, moi je fais un choix, je le soumets. J'essaye d'avoir un regard un petit peu, pas forcément très fantasy, on va dire. J'ai évité, s'il faut faire des nains avec, avec des haches, bon, j'ai dit, bon, ça c'est un petit peu ce qu'on voit partout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose ? Après, bon.
Tu vas la faire, mais planter dans le nain, c'est ça que tu veux ?
Non, non, mais je sais pas, il y a peut-être un élément sur son armure qui est important, j'en sais rien. Enfin. Essayer d'avoir un regard, faut essayer de tourner autour d'une idée, voilà, comme une caméra tourne autour d'un personnage. Après, il faut choisir peut-être le plan, plongée, contre-plongée. Qu'est-ce qui est le plus efficace par rapport à l'idée? Essayer aussi de trouver une idée qui soit quand même assez proche du titre. Parce que moi, il n'y a rien plus qui me déroute qu'un titre qui n'a rien à voir avec une couve. Alors, parfois, on peut être presque à la limite du hors-sujet, mais... voilà, si je sais pas, si une couve avec une idée de dragon et qu'il n'y a pas de dragon sur la, enfin, ou au moins pas, même pas l'évocation d'un dragon, ça, moi ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Donc voilà, c'est un mélange de choses comme ça. C'est aussi un mélange certainement de souvenirs que j'ai moi, de sensations, peut-être d'autres lectures. Je me bride pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que on est quand même dans un cadre de fantaisie qui est assez stéréotypé, et parfois je vais me dire, mais pourquoi on ferait pas ça finalement, un truc vraiment qui voilà. Je me souviens de, par exemple, de La Marque de la Bête de Charlotte Bousquet, qui était c'est Mango, je crois, qui a édité ça, et on m'avait suggéré de faire, bon, en fait c'est une histoire qui est assez intéressante, c'est un petit roman sympa, c'est une version de Peau d'âne revisitée, un peu plus trash, quoi. Mais ça se lit, c'est pas méchant, hein. C'est très fort, c'est bien écrit, et ça se lit, c'est pour tous les âges. Et donc, on m'avait suggéré de faire le personnage au milieu de la forêt, mais ça, c'est ce qu'on voit un peu partout, aussi bien en jeu vidéo, un truc central. Je trouve que c'était dommage de le réaliser de cette manière-là. Et finalement, il se trouve que dans l'histoire, la peau de bête que l'héroïne porte a une importance capitale. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une couverture où la peau de bête prend pratiquement les trois quarts de la couve, parce que voilà. Donc c'était un parti pris graphique, et que les couleurs soient, qu'il y ait une grosse partie très sombre en fait sur la couverture. Il se trouve que dans l'histoire, la peau de bête a une influence sur le personnage qui la porte. Bon. Et donc cette peau de bête prend le pas sur le reste. Sauf qu'en dessous, on a l'œil de l'héroïne qui apparaît en dessous de la, enfin voilà, comme un en dessous, quoi, sous cette peau. Et puis à côté, on a toutes les dents de la mâchoire de la peau de bête qui se trouvent à côté. Donc je trouvais qu'il y avait une cohérence d'idées de montrer que cette peau de bête avait vraiment une influence très forte sur le caractère du personnage, que le personnage était quand même, finalement, dans la composition, un petit peu écrasé par cette peau de bête, qu'elle avait une influence sur elle, qu'elle était prise en tenaille, finalement, symboliquement, entre les mâchoires de cette bête. Enfin, tout ça, ça me paraissait cohérent, et il se trouve que la couve fonctionne très bien. Donc c'est un mélange de concepts, de mise en place de formes, voilà, qui fait que ça fonctionne. C'est pas juste d'un crayonné. Je dirais que le crayonné aussi, un crayonné peut très bien ne rien donner en couleur, si les couleurs sont pas appropriées, et si... Enfin, je veux dire, il ne faut pas mélanger la forme et le fond, quoi. C'est quelque chose qui... un crayonné, moi, évolue tout le temps. C'est-à-dire que mon crayonné de base, il va de toute façon être un petit peu différent quant à la réalisation, parce que la couleur va aussi modifier les masses. Donc du coup, je vais peut-être supprimer des éléments du crayonné de base. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu technique ce que je raconte, mais c'est vraiment des choses que je ressens au fur et à mesure de la construction de l'image. Il y a cette vague idée... Il ne faut pas croire que... Quand on a une idée, on va faire ça, tout s'impose comme ça dans la tête. Beaucoup de gens me demandent, mais alors ma grand-mère notamment, à l'époque, qui me voyait travailler, je travaillais un peu chez elle récemment, j'avais un atelier dans notre maison là. Il se trouve que elle me demandait, mais tu vois l'image quand tu... Parce que ça lui paraissait tellement magique. Et moi, ça me paraît magique quand je vois quelqu'un dessiner. C'est le même processus. Il y a quelque chose que je... Ça reste quelque chose qui est complètement nouveau. Je connais la technique, mais il y a une création, quoi. Je crois que la création a un côté un petit peu divin. Il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas trop comment l'expliquer. C'est les connexions qui se font comme ça. Quand je vois quelqu'un qui forge une épée ou qui fabrique Je suis scotché.
Ça arrive moins souvent.
Ça arrive moins souvent, mais je veux dire, le travail manuel, finalement, la création humaine est quelque chose d'attirant et de. Voilà. Et moi, je m'en rends moins compte quand je suis dedans, parce que je suis dedans, donc je suis impliqué dedans, mais quand je vois quelqu'un d'autre faire cette démarche-là, c'est vrai que ça me fascine aussi. Donc, il n'y a pas. Voilà, je pense qu'on est tous différents, on fait des choses différentes, mais il y a ce lien comme ça. Et puis donc, ma grand-mère me posait cette question de savoir comment l'image venait. Je lui dis, j'ai une idée globale, mais petit à petit, finalement, le dessin, c'est-à-dire le côté technique, revient et petit à petit structure tout ça et met les choses en place. C'est-à-dire que on sait à peu près où on va, mais si on n'a pas la feuille avec le crayon ou la tablette graphique avec le stylet pour pouvoir crayonner, je trouve que là, voilà, ça, après, les choses prennent corps et petit à petit, ça vient. Et parfois même, je dirais, les éléments se deviennent logiques. J'ai un souvenir d'une couverture pour du Eddings, je crois. J'avais rajouté un élément qui était une chouette, et je ne sais pas pourquoi. J'avais mis un oiseau parce que puis j'avais choisi une chouette. Et il se trouve qu'il y avait une chouette dans l'histoire. Je l'avais, j'étais même pas au courant, quoi. Donc parfois aussi, quand l'idée, je dirais, poussée et bien pensée à la base. Certains éléments viennent se mettre dessus et il se trouve qu'en fait, finalement, j'avais peut-être une sorte de connexion avec l'auteur à ce moment-là, quoi.
Alors, lorsque tu nous décris ton processus de conception là, de l'illustration, par exemple, concernant la marque de la bête, j'ai envie quand même de faire juste une petite aparté sur du coup et revenir ensuite à tes livres. Mais c'est presque un travail de directeur artistique, ça, en fait. C'est presque cette composition conceptuelle qui est censée être sous-jacente à la couverture d'un livre et donc quelque chose qui soit entre le texte lui-même, entre l'aspect illustratif de l'illustration concernant le texte lui-même et l'objet fini de l'illustration. Ce concept que tu décris là par la position des dents, par la position de la peau de la bête et autres, c'est de la direction artistique. Est-ce que tu pourrais quand même nous donner ton avis, enfin nous dire un petit peu ton point de vue sur, je dirais, l'état de cette cheville ouvrière de la direction artistique dans l'édition en France depuis que tu côtoies les maisons d'édition, tu as travaillé pour toutes les maisons quasiment en France. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, entre guillemets, sur cette direction artistique ? Parce que ce travail de conception, par exemple, il aurait très bien pu être suggéré par quelqu'un qui avait, par exemple, lu le livre, d'une part, qui avait pu penser à une démarche, entre guillemets, marketing concernant le livre lui-même. Donc, j'ai l'impression part de conception n'était pas censée échoir dans ton escarcelle. Elle pouvait venir de la part d'une direction artistique. Alors, qu'en est-il de la direction artistique concernant les illustrations en France ? Est-ce que c'est la roue libre totale ou est-ce qu'il y a quand même des directions précises ? Est-ce qu'il y a des gens vraiment extrêmement compétents qui ont un rapport entre la littérature et l'art, quoi, en fait ? Parce que c'est une difficulté.
Après, moi, j'exécute finalement une demande qu'on me fait. Rien ne m'empêche de donner mon idée. Et si elle n'est pas approuvée, elle n'est pas approuvée. Enfin, je veux dire, si un DA a prévu de faire des choses parce qu'un commercial au-dessus lui dit qu'il faut faire ça, pourquoi pas ? Moi, de toute façon, une fois que le cadre est fixé, rien ne m'empêche dans ce cadre de m'exprimer et d'essayer d'apporter, je dirais, mon point de vue, quoi, un peu plus personnel. Tous les cas de figure existent, que ce soit avec n'importe quel éditeur. Certains éditeurs n'ont pas de directeur artistique et ils me font confiance et je les en remercie. Et d'autres en ont et puis finalement ça se passe très bien. Il n'y a pas de règles dans ce métier. Moi, je veux dire, du moment qu'il y a toujours de la créativité, c'est peut-être ça le truc. C'est que il faut peut-être pas tout formater, il faut peut-être pas faire systématiquement ça parce qu'en ce moment il faut faire ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que être peut-être un petit peu hors norme. J'ai un exemple moi de livre de pirates que j'ai fait il y a quelques années parce qu'il y avait Pirates des Caraïbes au cinéma et tous mes collègues et amis illustrateurs ont fait pratiquement tous un livre sur les pirates. Donc finalement on est obligé de suivre des tendances, mais peut-être qu'il y a moyen de faire un truc un peu décalé et puis peut-être qu'être en décalage je sais pas, bon, on sait qu'il y a des modes, hein. Il y a des modes des dinosaures, des pirates, après ça va être, je sais pas moi. Donc ça, on peut pas faire la passe là-dessus, mais peut-être qu'il faut à côté avoir d'autres choses, peut-être plus personnelles. Mais bon, je blâme personne, il faut bien. Enfin, l'éditeur, il est là pour vendre ses livres, hein, ça c'est évident.
Et alors à propos d'éditeurs, puisque j'ai vu quelques personnes avec des cartons à dessin dans la salle par exemple, qu'est-ce que tu pourrais en deux phrases, disons, comment encourager entre guillemets un jeune postulant illustrateur aujourd'hui, comment lui dire de ne pas désespérer, que ça peut arriver? Quel est d'après toi le meilleur processus?
Ce que je lui conseillerais d'abord, s'il a des images envoyées à un éditeur, finalement c'est de faire comme ce que j'ai fait à l'époque moi, c'est de pas envoyer ça en via des mails, parce que les mails, on est submergé de mails. Moi, je suis là pendant 5 jours, quand je vais rentrer lundi, ça va être... entre toutes les pubs que je vais avoir reçues, et puis... je vais passer un quart d'heure à tout nettoyer. C'est carrément de faire des tirages numériques, s'il peut, enfin des tirages photos. De bien se renseigner sur le nom du directeur artistique de la boîte, s'il y en a un, ou du responsable éditorial, ou du directeur éditorial, et de lui envoyer ça par la poste. Comme ça, au moins, il sera sûr qu'il y aura une trace derrière. Donc, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, au moins, il y a une trace papier, et qu'il mette surtout l'image dont il est le plus fier sur le dessus. Comme ça, si jamais le DA va pas jusqu'au bout de la lecture des images, au moins, il aura vu la première. Parce que je trouve qu'on est tellement noyé d'informations qu'à la fin on voit plus rien passer. Moi je suis sur Facebook parce qu'on m'a dit mets-toi sur Facebook, mais honnêtement il y a trop de choses qui passent et j'ai pas le temps de... Enfin voilà quoi, je trouve que... donc ça c'est la première chose que je suggérerais à un jeune qui commence. C'est aussi de ne pas se dire je veux faire ça et je veux faire que ça quoi. Je pense que... C'est vrai que moi, j'ai un côté un peu hétéroclite qui peut être aussi dangereux, je dirais, dans la lisibilité de mon parcours, de faire d'aborder des thèmes complètement différents, voilà. Mais je sais que toutes les expériences que j'ai pu avoir dans mon travail, que ce soit quand je travaillais pour du jeu de rôle, quand j'ai fait de la publicité, c'est-à-dire qu'au début, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des logiciels pour faire les lettrages et tout, mais j'ai fait parfois des couvertures où je faisais les lettrages moi-même. Tout ça, ça m'a apporté au niveau de l'équilibre de l'image, de la façon de la construire, d'y penser. J'ai travaillé aussi un moment pour les maquettes LR. Je faisais des voitures, des avions, à l'aéro. Donc je suis si la génération des années, comme toi Gilles, 80, où l'aéro était très présent. Donc bon, j'ai une façon de faire qui est peut-être très traditionnelle, entre guillemets, mais qui m'apporte un regard complètement différent sur les choses. Quand je fais du numérique, j'ai ma façon de travailler en numérique n'est pas celle de Alexis ou de Jean-Sébastien Rosbach. C'est une façon très traditionnelle. J'irais bon voilà quoi. Je peux pas avoir la même façon de travailler. Je suis pas né avec l'ordinateur. Donc voilà.
Par rapport à l'édition, en fait, est-ce que tu as des rapports avec les auteurs, par exemple, avant de les illustrer? Est-ce que tu peux, par exemple, tous les travaux que tu as fait, que ce soit avec David Gemmell ou Glenn Cook, par exemple, aujourd'hui, je sais que par le biais du petit artbook concernant les croquis, on va en reparler, mais du coup, tu as pu avoir un retour de Glenn Cook sur ton œuvre. Mais donc, que ce soit David Gemmell ou Bernard Werber, par exemple, comment ça se passe avec l'auteur en lui-même? Normalement, l'illustrateur n'est pas censé avoir de rapport avec l'auteur.
Là aussi, tous les cas de figure sont possibles.
Rapport professionnel, s'entend.
Oui, j'ai compris. Mais c'est vrai que ça peut être à double tranchant, pour un éditeur et pour moi, d'avoir, moi je ne fais que 1% du travail sur un livre, quand je fais une couverture. Je fais 1%, j'arrive à la fin... Voilà, presque fin, quand le manuscrit est en fin de traduction ou en fin de réécriture, enfin bref. Je fais 1% du travail, j'arrive en disant, moi finalement, j'ai la part belle parce que je vais mettre une image. Je vais mettre une image sur un bouquin, je vais passer quelques jours dessus, alors que le type, il a bossé quand même des fois un an, voire deux, voire trois, sur son texte. Donc j'ai quand même un devoir. Je parle pas pour des auteurs plus célèbres comme Gemmell ou Glenn Cook, mais pour un jeune auteur, j'ai quand même une responsabilité importante. Quoi. Je veux dire, je trouve que j'ai un devoir de faire attention à ce que je fais. C'est pour ça qu'il m'arrive parfois de refuser des couvertures parce que je sais que je n'aurai pas le temps de la faire parce que j'en ai deux autres qui attendent et si je prends la troisième, je risque de faire trois mauvaises couves ou trois couves moyennes alors que je dis pas que j'en ai pas des moyennes, mais j'essaye de tenir un certain niveau, je m'impose un certain niveau. Et si je prends cette troisième couverture, les trois risquent d'être bancales. Je préfère en prendre deux et puis les faire mieux, quoi. Par contre, on peut avoir aussi le problème de se retrouver avec un auteur qui a fait son premier roman et qui s'est tellement investi dans son travail qu'il a une image complètement arrêtée de ce qu'il veut voir et qui ne me laisse pas mon expression, qui veut voir ça absolument, il le voit comme ça mais pas comme ça. Et moi, mon boulot, c'est de lui faire comprendre que moi, je ne sais pas écrire. Donc je lui laisse effectivement son métier. Moi, je fais le mien, qui est une réinterprétation de son écriture, en mettant... Je tiens compte de ce qu'il me dit, hein, attention, c'est pas juste ce que je veux, mais je prends les bons éléments qu'il va me dire, j'exclus ceux qui me paraissent moins forts, pour qu'à la fin, on ait une image cohérente graphiquement, et surtout qu'il soit attirante. Une couverture, c'est une image commerciale. C'est pas une image d'intérieur de livre, c'est quelque chose qui doit attirer le regard. Bon, là, il se trouve qu'il y a le petit booklet là, de la Compagnie Noire, qui était édité lors de l'expo de la Maison d'ailleurs, qui faisait office de catalogue. Et ça, c'est une référence que je cite un peu systématiquement, mais je veux dire, si tout le monde fait des couves très colorées, je ferai une couverture noire. Parce que je me dis, finalement, au moins, elle se verra. Elle se verra peut-être pas, parce qu'elle est noire, et du coup, c'est sombre. Et par contre, dans la masse d'images qui vont être sur le présentoir, on aura une espèce de carré noir qui va faire que le regard, de toute façon, sera attiré par ça. Et c'est un peu le principe, c'est d'essayer de prendre le contre-pied, tout en étant professionnel et de tenir compte, effectivement, des évolutions actuelles. Mais voilà, ça, c'est un peu mon principe. Je suis indépendant, c'est aussi, ça dit aussi un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'aime aussi la solitude dans le travail, j'aime bien rigoler avec les copains à côté, mais quand je travaille, voilà, c'est le boulot. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, t'es vraiment indépendant, toi », parce que j'avais refusé un truc important en disant « Non, ça va... » Je dis, bah oui, mais je suis comme ça. Mais parfois, ça me manque aussi de ne pas pouvoir travailler avec des copains en groupe. Voilà, je me sens parfois aussi assez seul. Enfin, je veux dire, mais c'est comme ça. Je veux dire, on ne peut pas faire ce métier en se disant, je vais travailler en studio. Il y a un prix à payer, c'est la solitude aussi parfois. Qui m'a pesé à une époque, maintenant beaucoup moins. Bon.
Alors, juste une petite question qui m'a toujours intrigué, en fait, parce que. Donc, on sait que, donc, tu dis que normalement il n'y a pas effectivement de relation entre l'illustrateur et l'auteur, que l'éditeur est là pour faire le job au milieu. C'est vrai que ça peut être une sauvegarde en cas d'implication trop émotionnelle de l'auteur par rapport à la couverture. C'est vrai que moi j'ai entendu des histoires comme quoi...
J'ai eu le cas récemment, en fait. Évidemment, je ne donnerai pas le nom de l'auteur ni l'éditeur, mais il se trouve que j'ai... Au bout d'un moment, j'ai rappelé l'éditeur en disant « Là, il y a un problème, parce que bon, l'auteur me contredit systématiquement sur mon crayonné, et donc, en fait, il m'annule tous les effets que j'avais mis sur le crayonné. Il se trouve que moi, j'avais intégré des éléments qui étaient aussi un petit peu plus commerciaux pour que la couve soit quelque chose d'un petit peu plus forte, quoi, enfin, qu'elle soit un petit peu plus percutante. Et l'auteur avait déjà, lui, développé à côté des choses qui fait qu'il me, systématiquement, il me retirait les éléments de surprise et les choses que moi, je trouvais important de mettre. C'est vrai que vous allez voir, l'idée, c'est d'avoir une sensation sur la couverture qui n'est pas exacte. Enfin, évidemment, bon, qui ne l'a pas fait quand on lit un roman, on prend le bouquin, on essaye de trouver le passage qui correspond au roman pour voir où sont les choses. Bon. Mais il se trouve que c'est plus important que ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit peut-être un petit peu au-dessus du texte, enfin une autre version tout aussi intéressante, mais qui donne vraiment une idée générale, une ambiance. Enfin, faut que tout ça soit évoqué d'une certaine manière. Et puis cet aspect commercial qui revient, il faut pas être hors sujet, hein, mais il faut y penser. Enfin, quand je fais une couverture, je n'ai pas le même fonctionnement mental que quand je fais une illustration intérieure où je dirais, relativement libre. Quand un livre illustré, on a des images importantes et puis des images de liens, alors qu'une couverture, c'est un one shot, quoi. Si on se plante, eh ben c'est fini, quoi. Le livre, il risque de pas se vendre, sauf si l'auteur est très connu. Donc il se trouve que là, du coup, j'ai appelé l'éditeur en lui disant, écoute, j'ai un problème, là, je peux pas, voilà. Et puis finalement, bon, j'ai envoyé un mail poli à l'auteur en lui disant, écoute, là, faut que tu me laisses travailler parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et puis bon, mon but, c'est pas de faire 10 crayonnés et puis de se remettre en question tout le temps. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Moi, je pense que souvent, ma première approche est la bonne, on va dire, à la lecture. Ah ouais, ça, il faut faire ça, quoi.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus de création, alors concernant, je dirais, ton dernier chantier immense, qu'est la Compagnie Noire. Entre le processus par rapport au texte, en fait, comment uniformiser, comment donner une identité forte à une collection dont, d'une part, tu ne sais pas combien de tomes cela va comprendre quand tu démarres les premières illustrations, et ensuite, à la fin, quel conseil pourrais-tu nous donner pour rentrer dans ton œuvre? Donc, comment rentrer dans l'exposition des crayonnés? Comment comprendre cette chronologie? Comment essayer de mieux appréhender le tout, sachant que c'est quand même énorme, puisqu'il y a 15 tomes, plus aujourd'hui donc toutes les illustrations intérieures des omnibus chez La Talente.
C'est marrant parce que c'est une lecture qui m'a demandé des efforts au début, parce qu'elle n'est pas facile à comprendre. C'est vrai que quand je me suis engagé sur la Compagnie Noire avec La Talente, pour faire les premiers volumes, qui ne sont pas les omnibus, juste les couvertures, je ne savais pas du tout jusqu'où ça irait. Donc j'essayais de faire la première couve avec un visage vraiment de référence, qui pour moi était tout bib. Bon, il se trouve qu'avec la relecture, tout ça, je l'ai modifié, mais voilà. Donc j'ai eu une lecture, je dirais, très proche, et en même temps j'avais un petit, voilà, je faisais une couverture, donc j'étais moins appliqué. Quand on fait des images à l'intérieur, on n'a pas du tout la même façon de travailler. Et puis petit à petit, c'est vrai que c'est un espèce de concours de circonstances un peu déroutant, parce que la première, je voulais une identité forte avec le personnage, avec un Morillon. Il se trouve que dans l'histoire il n'y a pas vraiment de description de Morillon, mais il se trouve que Vol'Esprit en avait un, et du coup ça m'avait marqué, et puis voilà, on est parti là-dessus. Donc ça a créé une identité forte à la Compagnie Noire, et voilà, ça c'est mon interprétation personnelle. Le deuxième roman, la suite, donc, finalement, c'est une histoire qui est parallèle à la Compagnie. Donc déjà, je me suis dit, bon, d'accord, alors on a fait la Compagnie Noire, les Livres du Nord, et là, on part sur un truc, une histoire de le Château Noir, enfin, des trucs qui ont un lien, mais c'est pas vraiment, les personnages sont différents, tout ça. Donc, mon idée de départ, qui était à la base de mettre un visage sur chaque couverture, en me disant, comme ça, on aura... Sur la totalité des romans, on va avoir une espèce de panel de visages importants et forts, de caractères, quoi, sur chaque image. Et dès le deuxième roman, ça a été annulé. Je me suis dit, bon, je ne peux pas faire ça. Ok, le Château Noir, alors je fais le château. Et puis après, on est revenu à la Compagnie, et petit à petit, voilà, bon. Et puis, avec mes échanges avec l'éditeur, il se trouve que certaines, parfois une quatrième est devenue une première, et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a eu un travail un petit peu fluctuant, comme ça, de choses. De sensations, de fiches de lecture interminables. Et donc voilà, donc j'arrive au bout de la série des 13 volumes. Et puis, Pierre Michaud de La Talente me rappelle et me dit, tiens, on va les sortir en omnibus. Et je me suis dit, là, c'est une bonne occasion de reprendre cette série qui est quand même vachement bien, mais de la revoir de manière peut-être pour moi plus précise. Alors j'ai repris toutes mes fiches de lecture. J'ai repris des feuilles à côté, et je crois que c'est la seule série où j'ai des fiches de lecture de 10 pages recto verso pour chaque livre, quoi. Parce qu'en fait, il se trouve que la lecture n'est pas linéaire, il y a des lieux différents, des temps différents, des personnages qui ont des pseudos, qui parfois meurent, reviennent. Alors bon, j'ai des annotations avec des couleurs différentes, parce qu'il fallait que je m'y retrouve. Mais ça me permettait, moi, de reprendre tout et de savoir jusqu'où ça irait. De creuser les personnages et finalement de me faire plaisir avec des images à l'intérieur en me disant alors évidemment il a fallu que je prenne les bouquins, la masse des 3 livres, il a fallu que je les fragmente en morceaux en fonction du nombre d'images que j'avais à faire et d'essayer de trouver des passages qui correspondaient à peu près à la fragmentation que j'avais effectuée à plus ou 10 enfin à moins ou plus 10 pages près, on va dire. Et là-dedans, de développer qu'on ait finalement sur l'ensemble de la série une vision globale et un petit peu précise finalement des personnages. Qu'on ait une fois Vol'Esprit, qu'on ait une fois Toubib, qu'on ait Morgane une fois. C'est ça. Puis à côté, il y avait quand même des éléments sympas comme les corbeaux qui sont des liens, je dirais, très visuels, aériens, qui peuvent relier les images entre elles. À l'exposition de la maison d'ailleurs, il y avait des corbeaux qui étaient sur les murs, donc ça reliait. Donc voilà, c'est vrai que c'est une série dont je suis content parce qu'elle n'est pas facile à digérer. C'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais qui ne l'ont pas lu complètement parce qu'ils se sont découragés un petit peu trop tôt. Ils auraient dû attendre un peu plus loin. quelques chapitres de plus. Et c'est, la Compagnie Noire, c'est ça. Et bon, il y a ce côté comme ça, j'irais à tiroir en plus dans les histoires. Il y a un côté quand même très inconscient, très sombre. C'est de la fantaisie noire, c'est pas de la fantaisie tout court. Et Glenn Cook, dans sa petite, ce qu'il a écrit pour moi me fait plaisir parce qu'il il a mis un petit mot. J'ai jamais rencontré, hein, mais il a mis un petit mot en disant que j'avais certainement un petit peu sondé son esprit. Bon. En même temps, ça me fait peur. Je me dis, il a quand même des idées assez sombres.
Allez, ces quatre lignes, je vais vous les lire quand même. Et... alors, juste quand même pour vous signaler, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus prosaïque, on dira, c'est un objet superbe qui est tiré à très très peu d'exemplaires, puisqu'il a été créé donc à l'occasion de l'exposition à la Maison d'ailleurs, en fait. Il y a 500 exemplaires qui ont été faits. Donc c'est vraiment très peu d'exemplaires. Vous avez l'énorme chance d'avoir la possibilité d'avoir un croquis de plus original sur le jeu. Sur le livre aujourd'hui.
Si vous voulez.
Je vous lis la phrase de Glenn Cook quand même, parce que là, je pense que c'est un beau cadeau pour ces années de travail. Plus que tout autre artiste dans le monde entier, Didier Graffet a capturé l'atmosphère et l'esprit de la Compagnie Noire dans ses illustrations. Certaines de ses œuvres tiennent du pur génie. C'est comme s'il était parvenu à sonder furtivement mes cauchemars pour faire vivre ces mauvais garçons à coups de crayon et de pinceau. Chouette.
C'est chouette, mais et en plus j'ai l'avantage d'avoir finalement fait des illustrations sur la Compagnie Noire. Je pense que les auteurs américains qui ont fait juste des couvertures, ils n'ont fait que des couvertures. Là, j'ai eu la possibilité de développer son univers, ce qu'il n'avait peut-être pas vu. Donc en fait, je crois que c'est ça, c'est peut-être ça. Je suis certain que si quelqu'un le reprend, il le fera certainement mieux que moi. Mais voilà, bon, il se trouve que j'ai eu la chance de le développer en premier. Et voilà. Donc c'est vrai que cette série-là, en plus, elle n'a pas été faite d'un coup, elle a été faite sur 4 ans. Au mois de novembre tous les ans, Pierre m'appelait en disant là, on va sortir l'omnibus au mois de mars, donc il faut que tu nous fasses la suite. Quoi. Donc,
si elle avait été faite au mois de juillet, elle n'aurait pas eu la même tonalité, je pense. Non,
c'est possible. Oui. Et puis moi, je suis normand, donc il pleut souvent, il fait très sombre assez tôt.
Ben, je vous conseille vraiment il y a vraiment la Pointe d'Argent, par exemple, totalement hallucinante, les compositions des croquis, effectivement. On sent que tu t'es complètement affranchi de la contrainte de la couverture.
C'est comme quand on fait de la BD, je pense. Moi, je n'en fais pas, mais on essaye de varier les plans. Et sur une image comme ça, on essaye de se dire, bon, alors quel est le plan le plus révélateur de l'atmosphère, qui parle le plus. Si je fais, par exemple, une plongée sur un personnage, c'est-à-dire vu du dessus, automatiquement il y aura une sensation d'oppression, le personnage on aura l'impression qu'il est oppressé par quelque chose, et si je fais une contre-plongée, si je suis par en dessous, automatiquement il y aura un sentiment de puissance de la part de ce personnage. C'est juste ça, c'est juste des effets comme ça, mais de là ça va donner une image qui va fonctionner ou pas. Après, si je fais un personnage tout petit dans un, ça j'aime bien ce genre de rapport. On trouve beaucoup ça dans les illustrations de Jules Verne, un petit personnage paumé au milieu d'un décor énorme. Il est là en contemplation devant un truc qui le dépasse. Moi, j'aime bien ce rapport-là. Et du coup, voilà, c'est des choses auxquelles je vais réfléchir. Après, si je veux, je vais faire un gros plan. Là, par exemple, il y a une image où on voit une main qui a une tache parce que le personnage a été plus ou moins empoisonné. Elle est vraiment en premier plan, elle est par terre, donc on est au ras du sol. Et les types foutent le camp en courant parce qu'ils viennent de tuer ce type-là. Donc voilà, ça c'est une autre approche, et donc finalement sur chaque image je me dis bon, je vais essayer de faire différent. Il faut aussi que la cohérence d'ensemble, bon là l'exposition n'est pas dans l'ordre des images du petit catalogue, mais en les mettant les unes à côté des autres, il faut pas que ce soit systématiquement pareil, enfin il faut que ce soit varié quoi.
N'hésitez vraiment pas à aller jeter vraiment un œil sur les originaux. La main en question effectivement est juste hallucinante. Tu as parlé de bande dessinée, j'aurais aimé qu'on parle de tes expériences aussi de couverture de bande dessinée, on n'aura pas vraiment le temps, et de tes expériences chez Soleil par exemple avec l'anneau de Nibelungen par exemple, mais oui. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ton site internet en fait, Mondes et Voyages, et de tes de tout ce que tu as mis en place pour garder un lien avec le public, parce que donc des questions toutes bêtes, est-ce qu'on peut acheter tes originaux, est-ce que je sais que tu as eu des originaux vendus en vente aux enchères, oui. Est-ce que tu as un rapport là direct Est-ce qu'un lecteur amoureux fou de tes originaux peut te commander, par exemple, une copie peut te, comment est-ce que ça peut comment est-ce là, qu'on peut te contacter chose. Là-dessus
pour, je veux garder quand même du temps pour
se faire plaisir,
pour être illustrateur. Donc du coup, ça sera pas possible comme ça parce que bon, je peux pas tout faire. Bon, puis j'ai des enfants qui sont encore petits, donc parfois je suis frustré de pas pouvoir me mettre sur une image à telle heure parce que ben, les petits rentrent. Et ben, c'est comme ça, c'est ma vie à côté. Donc je suis obligé de composer, je suis des fois aussi peu disponible pour répondre, enfin si les mails je peux, enfin quand ils n'arrivent pas en trop grosse quantité, mais c'est vrai que maintenant on demande vraiment aux auteurs de répondre systématiquement et tout ça, c'est pas évident et je m'en excuse, mais c'est vrai que même Facebook je regarde et puis de temps en temps je mets une info, mais ça me prend aujourd'hui, j'ai un tiers de mon temps qui est pris devant l'écran et j'arrive plus à gérer l'image à côté. Donc bon, j'ai vu le site de Druyer il y a 2 jours et il était limite, bon là, il faut que je bosse. Enfin voilà, je comprends ça parce que c'est pas évident.
Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site?
Alors, parallèlement à ça, effectivement, j'ai un site qui est www.didiergrafé.com. Bon, là où je mets régulièrement les nouvelles couvertures, les choses comme ça, par thème, par Jules Verne, par thème de travail, Jules Verne, la fantaisie, les couves et tout ça. Les boulots personnels à côté aussi. Et à côté de ça, j'ai créé un autre site qui est Mondes et Voyages, qui est le nom du hardbook, parce qu'il se trouve que ça a coïncidé avec la sortie du hardbook, où là, je produis personnellement des posters avec une imprimante, une grosse imprimante qui fait de la digigraphie, mais là, il se trouve que c'est sur du papier photo, qui s'appelle Mondes et Voyages, donc. Suite à, finalement, aux demandes des gens sur les salons, en me demandant, tiens, j'aime bien telle image, où est-ce que je pourrais la trouver? Je dis, ben, elle n'existe pas. Bon, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Donc c'est un site qui marche pas plus que ça, mais en même temps, il a le mérite d'exister. Et puis, je n'ai pas de stock, c'est-à-dire que je propose des images sur le site. En fonction même des demandes, je peux en rajouter. C'est-à-dire que moi, j'ai toutes mes hautes def et je les maquette et je les propose sur ce site-là. Voilà, donc je mets moi personnellement les choses que j'aimerais voir. C'est toujours comme ça, finalement, quand on fait une image, on aimerait voir cette image, donc on la crée. Et là, je mets des choses que j'aimerais voir, mais je suis ouvert à toutes les propositions d'autres images. Bon, sachant que bon, c'est un site qui demande aussi du temps, donc c'est encore du temps que je vais proposer aux gens, mine de rien. Je suis pas commerçant ni rien, je suis pas un vendeur de rien, mais je le propose, voilà. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, il y a des reproductions de la Compagnie Noire. Je veux surtout pas rentrer en concurrence avec les éditeurs, ça c'est leur boulot. Moi je propose juste ça à côté parce que je trouve que ça peut être sympa d'avoir un poster chez soi d'une image qui n'est parfois pas éditée sous cette forme, qui a été éditée dans un bouquin mais qui est à moitié bouffée par le texte. Enfin voilà, là on a une image qui est pur jus, quoi.
Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, donc il faut pas hésiter à te contacter, mais être patient pour la réponse.
On va la réponse, vous l'aurez rapidement, enfin en tout cas par mail. Je m'astreins à avoir la réponse, enfin à faire une réponse rapide. Voilà.
Je vous invite à essayer de croiser Didier durant le salon, puisqu'il reste avec nous jusqu'à dimanche. Vous avez la joie et je dirais presque l'honneur d'avoir quand même de grands artistes présents avec Didier, avec Alexis Briclot qui est présent pendant le salon aujourd'hui. N'hésitez pas donc à monter sur la mezzanine, voir la superbe exposition de Didier, essayez de le coincer pour qu'il vous fasse une visite guidée. Et je vous remercie donc d'avoir assisté à cette rencontre et merci à toi Didier.
Merci.